rivières ont besoin d'être protégées. Mais comment y parvenir si on les oublie ? Les humains vivent parfois au bord des cours d'eau sans même y penser. Ils puisent leurs eaux sans les regarder. Pour retisser les liens entre nos rivières et nous, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et la région Bretagne ont lancé en 2021 l'Atlas socioculturel du Belon. D'autres ont suivi, le Lapic, le Léguerre, les Marais de Vilaine et la Rade de l'Orient avec le Scorff, le Blavet et le Terre. Ce sont ces démarches que vous propose de découvrir ce podcast.
Je m'appelle Mado Rabat, je suis architecte et urbaniste et je représente l'association Terre-Lieu. L'association Terre-Lieu est née de l'association de plusieurs architectes et urbanistes aménageurs du territoire qui se sont interrogés sur la notion de médiation entre les habitants et leur territoire. Le projet pour lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le projet d'Atlas socioculturel des Marais de Vilaine qui est né d'un appel à projet de la région Bretagne pour valoriser le patrimoine en lien avec l'eau, un projet copiloté par Eaux et Rivières de Bretagne et la région Bretagne. C'est un appel à projet pour lequel nous avons été lauréats et qui nous a permis de travailler pendant 2 ans sur les Marais de Vilaine. Alors moi, j'ai une formation d'urbanisme avec des notions de paysage et assez rapidement dans mon cursus, je me suis intéressée à la notion d'attache à nos milieux et comment ces attachements peuvent produire des stratégies de résilience et de soins à nos milieux. Je me suis rapidement intéressée à la question des cours d'eau et de leur évolution et d'une rencontre à l'école d'archi avec un ami, Gégé, Germain Ugiel. On a de nombreux questionnements sur la Vilaine et plus particulièrement sur les marais. C'est ainsi qu'est apparue l'envie de questionner ce territoire par une réalité géographique. En fait, c'est la zone Natura 2000, une zone préservée de marais qui correspond aussi à l'emprise de Redon Agglomération, donc 31 communes avec une histoire singulière où le territoire est constitué de marais et aujourd'hui canalisé suite à l'implantation du barrage d'Arzal, mais avec une histoire paysanne riche de ce territoire qui était anciennement maritime. En fait, Natura 2000 est en charge de la stratégie de préservation baies et estuaires depuis quelques années. Ce sont aujourd'hui nos interlocuteurs principaux puisqu'ils défendent une vision transversale de l'approche des milieux entre cette gestion humaine et la préservation de la biodiversité. Alors l'objectif de la région, c'était justement cette approche transversale entre un milieu et sa réalité culturelle et anthropique à la préservation de la biodiversité. Comment, à travers le regard des usagers et de ceux qui pratiquent un milieu, on peut entrevoir une autre manière de lire un paysage que les simples approches stratégiques de préservation de l'environnement et de lutte contre les aléas. Alors, c'était la première fois pour l'association que l'on répondait à un appel à projet aussi complexe. En fait, le but étant de valoriser l'approche culturelle et l'approche environnementale, on a été très vite confrontés à 2 limites. La limite territoriale, il faut savoir que le pays de Redon, c'est 3 départements, 2 régions, 31 communes, et qu'au sein de ces instances, de ces collectivités territoriales, la gestion culturelle et la gestion environnementale fonctionnent en silo et ne communiquent pas. Nous, tout notre projet, c'était d'avoir cette approche transversale et de faire communiquer ces approches. Alors, face à cette limite liée à l'investissement des collectivités territoriales, nous sommes énormément appuyés sur les structures associatives qui sont extrêmement nombreuses et actives sur le territoire redonnais. On pense au groupement culturel breton des Pays de Vilaine qui est extrêmement actif et qui nous a accompagnés dans le projet. On s'est alors posé la question de qu'est-ce qui, dans cet attachement, produit une envie de collecter, d'archiver, de valoriser ce territoire chez les habitants. Première restitution factuelle de cet atlas, c'est la réalisation d'un site internet sur le modèle pilote de celui qui a été réalisé pour l'atlas du Belon. Donc le résultat de cet atlas socioculturel, c'est tout d'abord la réalisation d'une carte collaborative, donc une carte sur laquelle on peut zoomer et découvrir des épingles, de nombreuses épingles classifiées de la manière suivante, avec le thème du paysage, le thème de la faune, celui du conte et des légendes, et enfin celui des usages. Ces collectages sont issus d'interviews que l'on a pu mener sur le territoire des Marais, parfois des interviews ciblées avec un acteur ou une actrice clé environnementaliste, spécialiste du milieu, de sa gestion, des agriculteurs, agricultrices, des pêcheurs. Enfin, je vous laisserai découvrir la richesse de ces témoignages. On a aussi des interviews d'enfants que l'on peut écouter sur cette carte. Donc, c'est une première retranscription factuelle sur le site de l'Atlas socioculturel des Marais de Villèle. Et puis, surtout pour inaugurer cet atlas, on a pu organiser un événement qui s'appelait les Rencontres du Marais avec l'aide de nombreuses structures associatives du territoire. Cette rencontre a eu lieu le 23 septembre 2023. Et nous avons travaillé et collaboré étroitement avec les hydrophiles et la radio Plume FM, notamment pour la mise en place de tables rondes, mais aussi tout un programme d'activités et de spectacles pour raconter les marais.
Je m'appelle Aurélie David, je suis étudiante en anthropologie et je fais une thèse sur le pays de Redon et je cherche à comprendre le sentiment d'attachement des personnes qui vivent ici, ce qu'on appelle le pays de Redon, et pourquoi est-ce que certaines personnes s'engagent pour défendre ce pays. J'ai découvert le pays de Redon il y a un peu plus de 3 ans et en fait en arrivant ici, il y a plein de choses que je ne comprenais pas par rapport à ce que j'avais vécu avant, notamment cette complexité administrative qui me posait question, la question des marais qui était immense, voilà, il y a plein de choses qui me posaient question. Un bon sujet d'étude, en tout cas, qui m'intéressait et qui commence à me passionner. Je suis en anthropologie, mais j'ai une formation initiale en géographie. Donc, je combine plusieurs méthodes. La méthode de base de l'anthropologie, c'est l'ethnographie, c'est-à-dire qu'on participe à la vie des gens qui nous entourent. Donc, on est au quotidien dans les activités, dans les rencontres, etc. Et on prend des notes, en gros, sur tout ce qui se passe, sur les personnes, les activités, ce que font les gens, pour essayer de dégager un petit peu ce qui est important pour les personnes qu'on rencontre. C'est une manière un peu empirique de construire son sujet. Et en parallèle, donc moi je viens de la géographie, où là c'est plus une lecture de cartes, une lecture de paysages, et j'essaye de combiner un petit peu les deux. C'est vraiment cette approche à la fois géographique, moi qui m'a intéressée avec la question des marais qui sont omniprésents sur le territoire, et cette question des personnes qui habitent autour de ces marais. Comment les deux se combinent et comment ça se passe dans le quotidien des personnes. La navigation commerciale, on va dire, a connu son heure de gloire au 18e et 19e. Enfin, c'est effondré, on va dire, au début du 20e siècle. Donc c'est vrai que les ports n'étaient plus très utilisés dans les années 50. Voilà, il n'y avait plus vraiment de navigation commerciale sur le secteur, sur les rivières. Et après, le changement majeur qu'il y a eu, donc c'est en 1969-70, c'est la construction du barrage d'Arzal, en aval de la Vilaine, qui a bouleversé les milieux donc des marais autour de Redon. Il y avait déjà eu des alertes pendant la construction du barrage sur le manque d'études poussées sur certains points, notamment de prise en compte de la biodiversité des poissons qu'il y avait dans les rivières, par exemple. Et il y a eu beaucoup de contestations donc, qui ont eu lieu, à la fois des pêcheurs, des mytiliculteurs qui étaient au niveau de l'estuaire. On a pu voir directement, c'est l'arrêt des marées. La mer a arrêté de remonter jusqu'à Belley-sur-Vilaine. Et c'était vraiment l'objectif aussi de ce barrage, c'est de couper l'arrivée des marées pour limiter les dégâts des inondations. Ça a été un effet assez notable, c'est-à-dire que l'eau salée ne remontait plus jusqu'à Belley. Donc ça a modifié la physionomie des marées, enfin leur écologie. En conséquence, il y a eu également beaucoup moins de poissons, d'anguilles, moins de retenue d'eau, ce qui fait qu'il y a les oiseaux migrateurs, en fait, ont progressivement disparu également des marées. Ça a été des changements qui ont été assez rapides. En une dizaine d'années, l'écologie des marées a changé. Les campagnes s'étaient vidées déjà depuis un petit moment, enfin depuis le début du XXe siècle, après la guerre également. Après, la démographie a relativement stagné depuis les années 70. À partir des années 50-60, il y avait aussi un slogan qui était « Vivre et travailler au pays ». Sur le pays de Redon, mais pas que, les personnes se sont organisées pour proposer aussi des emplois, pour revoir l'économie locale, pour que les jeunes du pays puissent rester. C'est un lien qui a fortement changé, j'ai l'impression, enfin qui dépend aussi beaucoup des personnes rencontrées. Les personnes qui vivaient aux bordures des marais étaient très attachées à la vie quotidienne des marais, qui rythmait le quotidien. Les personnes que j'ai pu rencontrer, qui ont connu la vie dans les marais avant le barrage, enfin, me parlent toutes d'une pauvreté assez importante, mais aussi d'une autonomie autonomie vivrière, c'est-à-dire qu'on pouvait pêcher, chasser dans les marais et on ne mourait pas de faim. On n'était pas riches, mais on ne mourait pas de faim. Et c'est vrai que ce contact avec la nature au sens large, donc c'est-à-dire les paysages et les animaux qui vivent à l'intérieur, c'était un attachement qui était assez fort. En tout cas, parmi les personnes que j'ai rencontrées, c'était vraiment quelque chose de sensible, d'ancré. Des personnes qui m'en parlaient avec les larmes aux yeux de cette époque-là. On sent que c'est vraiment quelque chose qui est intime. En fait, c'est une relation intime à l'environnement des marais. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ne voyaient pas l'intérêt des marais, enfin qui voyaient ces grands espaces et qui souhaitaient les aménager pour en faire des espaces productifs, c'est-à-dire soit au niveau de l'agriculture ou au niveau de l'urbanisme. C'était aussi un des objectifs du barrage d'Arzal, c'était d'assécher les marais pour faire de l'agriculture intensive, notamment du maïs mais pas que, et donc de rendre une productivité en fait à ces espaces. C'était l'époque des Trente Glorieuses, donc c'était l'époque du progrès technique, de la modernisation agricole, etc. Donc sur le pays de Redon, ça n'a pas fonctionné. Les marais n'ont pas réussi à être asséchés pour en faire des polders hollandais, par exemple. Donc en fait, suite à cet échec relatif de la mise en culture des marais, ils sont devenus un peu improductifs. Et du coup, certaines personnes se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces espaces vides qui ne nous servent à rien? Et dans les années 80-90, il y a eu des décharges sauvages, il y a eu du remblaiement pour en faire des zones industrielles, pour en faire des zones artisanales, pour en faire des lotissements. Voilà, il fallait quand même trouver une utilité à ces grands espaces. D'autant plus que le barrage était censé nous protéger de toutes les inondations. Donc, ce qui a permis le développement de l'urbanisme et des décharges sauvages dans ces marais-là. Moi, ce qui m'a surprise quand je suis arrivée là, c'est que j'ai constaté l'évolution des marais entre l'été et l'hiver. Voilà, ils n'ont pas du tout la même physionomie. Et quand j'allais me balader dans les marais, en fait, je ne croisais personne. Quand j'interrogeais les personnes que je rencontrais sur ces espaces-là, c'était le silence absolu. Personne ne me parlait des marais. C'était vraiment un non-sujet, soit parce qu'ils ont toujours connu ces espaces-là, il n'y avait rien à en dire. Et je me suis vraiment pas heurtée à un mur, mais voilà, j'avais aucune information sur ces espaces-là. Et du coup, j'ai essayé de comprendre un petit peu pourquoi aujourd'hui, personne ne parlait des marais. Parce que c'était un traumatisme parmi les anciennes générations qui était encore vif. Aujourd'hui, je n'ai pas rencontré de plus jeunes qui ont un attachement fort à ces espaces-là. C'est vrai que les marais ont toujours eu une mauvaise réputation, zone insalubre, maladies, insectes, des légendes, de la dame blanche qui t'emmène au fond des marais pour te noyer. C'est quand même un imaginaire assez négatif pour certaines personnes, et puis pour d'autres, vraiment un lien intime à la nature. C'est vrai que quand j'ai rencontré des personnes qui ont grandi dans les années 70-80, donc qui n'ont pas connu les marais avant le barrage, me disaient les marais étaient utilisés, par exemple le dimanche en famille, on allait pique-niquer dans les marais. Beaucoup de monde avait sa petite parcelle personnelle, et donc voilà, il y avait quand même cette idée de sortie qui s'est perdue au fil du temps. Aussi parce que les marais ont commencé à être rachetés par différentes institutions, donc la propriété privée s'est perdue. Les marais ont changé de mode d'exploitation agricole. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui fait peut-être qu'aujourd'hui, plus personne ne va dans les marais parce qu'on n'a plus besoin d'y aller. Il n'y a plus que les agriculteurs qui viennent pâturer ou faucher les marais de temps en temps. Quelques pêcheurs, les chasseurs, il n'y en a quasiment plus. Donc, il n'y a plus personne qui a un besoin d'y aller. Du coup, les personnes, en fait, ne connaissent plus l'écologie du marais, c'est-à-dire ce que c'est exactement. Est-ce qu'il y a des roselières? Est-ce que c'est des tourbières? Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qui est privé? Qu'est-ce qui n'est pas privé? Qu'est-ce qu'on peut y faire aujourd'hui? On ne sait plus du tout comment se comporter, comment dans un marais. Voilà, c'est un grand espace vide, mais comment il est composé? Est-ce qu'on peut, à quoi ça sert tout ça? Cette connaissance, aujourd'hui, elle est perdue. Depuis quelques années, il y a des associations qui se sont créées pour essayer de recréer un petit peu ce lien sensible à l'environnement, aux marais notamment, Bretagne Vivante, à l'association Les Rives de Gandel, par exemple, qui essaye d'organiser des balades pour comprendre les marais, comprendre ce qui se joue à l'intérieur. Enfin, les marais en tant que zone tampon, zone inondable, étaient bien connus, mais l'imaginaire d'avoir un barrage qui va régler tous les problèmes, c'était vraiment le progrès technique qui était supérieur à la nature et qui allait pouvoir maîtriser, dominer les éléments naturels qui nous gênaient, qui nous empêchaient de faire ce qu'on voulait de ces espaces-là. Dans les années 70-80, à l'échelle européenne, il y a eu le démarrage du mouvement écologiste de manière assez large, donc de protection de la biodiversité, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. L'Union européenne a instauré un réseau Natura 2000, c'est-à-dire un réseau d'espaces protégés à l'échelle de tous les États européens pour pouvoir protéger notamment les oiseaux migrateurs qui pouvaient trouver des zones de repos protégées sur tout leur circuit de migration. Et donc l'État donc français a été obligé de suivre cette réglementation et a mis en place le réseau Natura 2000 qui avait vocation à être mis en place en 2000 comme son nom l'indique. Ici, ça a été mis en place en 2004 et c'est l'État donc qui a proposé de labelliser les marais de Vilaine dans le réseau Natura 2000. Ça a été assez mal vécu par les élus à l'époque qui se sentaient un petit peu dépossédés de leurs espaces et on leur imposait une politique, une sorte de mise sous cloche des marais, voilà, dans lequel on n'avait plus le droit de rien faire. Donc ça a été assez mal vécu et voilà, il y a eu un gros travail de quelques élus qui étaient vraiment passionnés, qui ont porté le projet à bras-le-corps pour mettre en place cette zone Natura 2000 qui vise vraiment à protéger les espaces naturels pour que la biodiversité, donc les animaux, la flore, puissent se développer et trouver des espaces de repos dans leur circuit de vie habituel. Il y a très peu de valorisation touristique des marais de Vilaine, contrairement au marais Salan ou au marais Poitevin, voilà, qui connaissent vraiment une dimension touristique assez importante. Il y a quelques espaces qui ont été mis en avant par les différents départements. Je pense au marais de Gandelle, qui est labellisé espace naturel sensible, donc qui est ouvert au public, qui est mis en avant par le département d'Ille-et-Vilaine. Mais c'est un des sites d'Ille-et-Vilaine qui est le moins fréquenté. C'est le moins connu. Il y a très peu, en fait, d'accroches touristiques sur ces espaces-là. Une grande complexité administrative, ça c'est certain, qui se joue au niveau des marais notamment, puisqu'il faut associer donc les trois départements qui gèrent les espaces naturels sensibles, les fédérations de pêche, de chasse, les chambres d'agriculture, donc des trois départements, voilà, tout est multiplié, donc le nombre d'interlocuteurs est multiplié, ce qui rend très difficile en fait le fait de trouver un objectif commun pour protéger ces espaces-là. Donc il faut vraiment négocier avec un nombre de personnes, un nombre d'institutions plus important. Il y a très peu d'associations naturalistes sur le secteur. Il y a beaucoup d'associations culturelles, festives, etc., mais qui sont liées à la prise en compte de l'environnement assez peu. C'est assez paradoxal parce que c'est quand même un secteur naturel assez important. Il y a eu le comité des marais dans les années 90 qui s'est beaucoup mobilisé pour la prise en compte de la biodiversité au niveau du barrage d'Arzal, de ses impacts, qui a ensuite produit une série d'ouvrages sur la vie dans les marais, la culture, les traditions dans les marais. Ensuite, il y a eu un creux à peu près jusqu'aux années 2010. Moi, je n'ai pas trouvé de traces, en tout cas, d'associations qui œuvraient sur ce secteur-là. Et à partir de 2010, il y a eu un renouveau d'associations qui se sont créées autour de ces questions environnementales et des marais. Récemment, il y a eu le collectif Au La Vilaine qui s'est créé pour parler des ports et des marais de la Vilaine. Il y a quelques associations qui se sont montées sur ce secteur, mais qui restent assez faibles par rapport à la densité associative générale du secteur. Il y a plus personne sur les marais, à part des personnes qui ont un intérêt, soit d'aller pêcher pour le loisir, par exemple, ou les agriculteurs qui sont engagés dans des démarches de pâturage ou de fauche des marais. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont des conventions avec Eau et Vilaine, par exemple, ou les départements pour entretenir les marais. Ce sont des démarches volontaires qui ne leur apportent pas beaucoup d'argent. Et en général, ils font ça plutôt par conviction écologique qu'économique. Donc c'est vraiment des gens qui sont investis dans le maintien des marais tels qu'ils existent aujourd'hui. Mais en effet, aujourd'hui, l'usage des marais est très très ponctuel. Et ce ne sont plus des lieux de balade, ce ne sont plus des lieux de vie comme ce qui existait à la fin du XXe. Comme les espaces sont libérés d'activités humaines, il y a toute une faune et flore qui se développe. Il y a une difficulté, c'est de savoir exactement ce qu'il y a comme type d'espèce sur les marais, parce que les inventaires écologiques, ça coûte extrêmement cher. Ils sont faits de manière très ponctuelle, donc on ne sait pas exactement la diversité réelle des espèces animales et végétales qui existent aujourd'hui. On en a une vague idée, mais elle n'est pas exhaustive. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas qu'il y avait des marais. Je pense que c'est pas la première chose qu'on voit en arrivant. Très difficile d'imaginer l'avenir, mais en tout cas, avec les inondations qui ont eu lieu, je pense que tout le monde s'est rendu compte à nouveau de l'omniprésence des marais et de leur intérêt. Des limites aussi sur l'urbanisation dans les zones inondables. Il y a quand même eu une prise de conscience qui avait peut-être été oubliée. Il y a peut-être des choses qui vont être réactivées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques associations qui essayent de porter un message politique sur la prise en compte des espaces naturels, d'une plus grande protection, de faire des choses différemment, d'arrêter bien sûr d'urbaniser dans ces espaces-là, de renaturer les espaces qui étaient urbanisés. Peut-être que ça va évoluer dans les prochaines années. En tout cas, il y a quelques personnes qui portent ce message-là.
« Eau-et-Vilaine, que l'on appelait auparavant l'IAV, c'est un établissement public territorial de bassin sur 11 000 km², tout le secteur de l'Ousse et de la Vilaine, hein, pratiquement de Vannes, Loudéac, Rennes, Vitré, Châteaubriant et jusqu'au barrage d'Arzal, bien entendu.
Jean-François Marie, maire d'Allaire, président de Redon Agglomération, président d'Eau-et-Vilaine.
Eau-et-Vilaine a pour vocation de gérer des barrages, hein, le barrage d'Arzal en premier, mais des barrages sur la Vilaine amont également. Eau-et-Vilaine est producteur d'eau potable, hein, produit 20 millions de mètres cubes et assure de la production pour plus d'un million d'habitants et pour le secteur de Rennes également. Sans oublier bien sûr tout le secteur de la presqu'île guérandaise, Saint-Nazaire et la presqu'île de Ruisse et Vannes l'été en particulier. Puisque la particularité du réseau d'eau potable, c'est de sécuriser la distribution en eau potable pour toutes les populations, y compris quand on est en période de sécheresse et que les agriculteurs utilisent beaucoup d'eau. Eau-et-Vilaine a également une autre mission qui est importante, c'est s'occuper de la gestion des milieux aquatiques. La gestion des milieux aquatiques, c'est quoi ? Eh bien, c'est s'occuper des cours d'eau, faire en sorte que les cours d'eau soient en bon état. Dans les cours d'eau, il y a de la biodiversité, des poissons en particulier, et que sur le bord des cours d'eau, on ait également une bonne biodiversité. On travaille pour ralentir l'écoulement des eaux depuis ce que l'on appelle les têtes de bassin, c'est-à-dire depuis les sources que l'on retrouve dans le milieu agricole, hein, les petits ruisseaux qui font ensuite les grandes rivières pour aller jusqu'à l'océan. Et il faut que l'eau s'écoule le plus lentement possible pour que l'on en ait en période d'été, en période d'étiage, quand tout simplement eh bien, il ne pleut pas pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois. Donc cette gestion des milieux aquatiques est extrêmement importante. Une des autres vocations d'Eau-et-Vilaine, hein, c'est le nouveau nom de l'EPTB, eh bien, c'est de lutter également contre les inondations. Et à Redon en particulier, nous avons un système de crues, de protection des crues qui est en train de se mettre en place sur le quai Jean Bar. S'il y a des crues importantes, eh bien, ça veut dire qu'on pourra toujours habiter sur l'île de Redon sans être inondé. L'eau qui arrive à Arzal, elle peut venir de Loudéac, elle peut venir de Vitré, elle peut venir de Châteaubriant, elle peut venir de Malétroit. Et c'est de l'eau qui est captée dans l'ensemble des milieux et entre autres dans les espaces agricoles. Et on le sait bien que les sols filtrent l'eau, en particulier les phosphores et les nitrates. Et pour ça, en fait, le bocage, hein, les haies hein, qui sont autour de nos champs, des prairies, eh bien, sont extrêmement importants. Il faut dire également que le fait d'avoir une agriculture qui est tournée vers la production laitière, l'élevage laitier et l'élevage bovin est très favorable, puisque le système herbager permet tout simplement d'utiliser moins de molécules chimiques et est donc favorable à une qualité de l'eau qui est bonne. Parce que si l'eau brute qui coule dans les rivières eh bien, n'est pas bonne, on aura un coût de traitement qui sera très élevé. Et même dans certaines régions, on a eu le cas à Missillac, hein, c'est pas très loin d'ici, du jour au lendemain, l'Agence régionale de santé a fermé le captage, c'est-à-dire que potentiellement, si on n'avait pas d'autres captages, ça veut dire qu'on avait 20 000, 30 000 habitants, ben, on coupait le robinet d'eau potable, tout simplement. Donc c'est important que les eaux brutes soient de la meilleure qualité possible pour que derrière, tout le monde puisse en bénéficier. Quand on a fait le barrage Arzal, on voulait lutter contre les inondations, mais faire 10 000 hectares de cultures agricoles dans le marais. Mais ça, c'était un petit peu malin à l'époque, parce que c'était pour percevoir des subventions européennes, entre autres. Aujourd'hui, d'aller cultiver du maïs dans le marais, ce n'est plus beaucoup d'actualité, voire ce sera totalement interdit dans les années qui viennent. L'autre raison évoquée, c'est la production d'eau potable. Donc on a évoqué Vannes, la presqu'île de Ruisse, Guérande, Saint-Nazaire. Mais aujourd'hui, on va également aller alimenter Rennes. Et Rennes, l'eau qui sera produite autour de Rennes ira alimenter Vitré et Saint-Malo. Et nous sommes également rattachés à Nantes, puisque Nantes, en 2022, eh bien, était en passe de manquer d'eau potable. Et l'eau qui était produite sur le secteur de Saint-Nazaire allait sur Nantes, et l'eau de la Vilaine allait davantage sur Saint-Nazaire. On est tous reliés, et il est important que nous ayons la capacité, surtout l'été, en période d'étiage, de pouvoir alimenter tout le territoire. C'est aussi l'occasion de rappeler que c'est les territoires ruraux où nous vivons, qui apportent de l'eau potable aux territoires urbains. Donc nous attendons que les territoires urbains soient pleinement solidaires et solidaire financièrement des territoires ruraux, puisque nous, nous pouvons apporter de l'eau. Nous apportons également de l'alimentation grâce à nos agriculteurs, hein, de l'alimentation de qualité. Et nous sommes également responsables de la biodiversité. Mais sauf que quand vous produisez de la biodiversité, vous n'avez pas de recettes fiscales. Donc il faut que nous soyons bien reconnus et que nous ayons des aménités rurales qui sont compensées de façon importante pour permettre à nos collectivités d'apporter l'ensemble des services aux habitants qui vivent sur nos territoires. Les agriculteurs, ce sont une catégorie d'usagers de l'eau. Et nous avons ce que l'on appelle une commission locale de l'eau, qui est le Parlement de l'eau, où nous revoyons le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur l'ensemble de la Vilaine. Et nous discutons des usages de l'eau ici ou là. Actuellement, nous allons avoir sur des sous-bassins versants ce que l'on appelle des études HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat. C'est-à-dire qu'on va étudier de façon scientifique comment les différents utilisateurs d'eau potable peuvent se projeter. L'hiver, il n'y a pas trop de problèmes. Au printemps, normalement, non. Mais en été et en automne, on peut avoir des manques d'eau. Nous répondons à la directive cadre sur l'eau de l'Union européenne, qui est déclinée au niveau français et dans le schéma directeur de l'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne. Et en Ille-et-Vilaine, par exemple, 3% des masses d'eau sont en bon état écologique et nous devons atteindre 27%. Et pour cela, nous devons travailler sur le bocage, reconstituer des haies, parce que quand on a des haies et des talus, ça arrête l'écoulement de l'eau et ça capte aussi quelque chose qui est utilisé par l'agriculture qui s'appelle le phosphore, hein, qui sert tout simplement d'amendement. Hein, et ça permet également de mieux gérer les nitrates. Ensuite, ça permet de ralentir et de transformer les molécules avant qu'elles arrivent dans le cours d'eau et au robinet. Nous avons également un travail sur le reméandrage des cours d'eau, c'est-à-dire que le génie rural en 1950-1960, ils nous ont tracé des cours d'eau, l'Arse par exemple, qui était sinueuse, ils nous l'ont tracé en ligne droite, comme le canal de Nantes à Brest. Eh bien aujourd'hui, ce qu'on a fait il y a 60 ans, eh bien il faut le défaire et refaire des reméandrages. Et il faut préserver le bord du cours d'eau, puisque là, il y a une biodiversité, il y a un certain nombre d'espèces vivantes. Et on travaille donc sur ce qu'on appelle la ripisylve, c'est-à-dire c'est toutes les plantes qui passent en bord du cours d'eau, etc. On fait également des aménagements pour que les animaux n'aillent pas directement boire à la rivière, mais aient en place des systèmes d'abreuvement avec des pompes, et ils vont boire à l'écart, mais du coup, ils abîment pas le cours d'eau. Un dernier travail qui est prévu, c'est en direction des pratiques agricoles, pour réduire les intrants chimiques, hein, donc les phytos, en fait, pour parler clairement, avec tout simplement des systèmes comme le désherbage mécanique de certaines cultures, hein, et faire en sorte que ça change. Et tout faire pour favoriser l'élevage laitier et la production sur herbe.
C'était Rives et Récits, une série de podcasts proposés par les radios de la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec Eaux et Rivières de Bretagne, l'Office français de la biodiversité et la région Bretagne.